Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous. Comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, la prochaine ouverture du mémorial du camp des Milles dans le sud de la France. Un des rares camps d'internement et de déportation français à être encore intact et où près de 10 000 personnes ont été internées, dont 2 000 déportées. Ce mémorial se veut autant un lieu du souvenir de la déportation et de l'histoire du camp qu'un lieu d'éducation. Et c'est ce qui fait sa particularité puisque la démarche du mémorial est de s'adresser aux jeunes pour les sensibiliser aux processus qui font basculer la démocratie dans le totalitarisme et à ceux plus individuels qui font que l'on choisit de résister, de fermer les yeux ou de collaborer. Avec nous pour en parler, Alain Chouraki, directeur de recherche au CNRS et président de la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation.
Bonjour.
Alors pour commencer, peut-être vous pouvez nous expliquer, Alain Chouraki, comment le Camp des Milles est peu à peu sorti de l'oubli et comment finalement est né ce projet.
Oui, effectivement, c'est un projet qui a maintenant 29 ans, donc presque 30 ans de travail de mémoire et de combat pour que cette mémoire émerge. À l'origine, une quinzaine d'internés, de déportés, de résistants, pas spécialement du camp des Milles, mais qui étaient de la région et qui ont découvert, à la fois en 1983, à la fois que le camp des Milles existait et que une partie, la salle des peintures murales, risquait d'être détruite. C'est à l'occasion de ce risque qu'a émergé l'existence même, aux yeux en tout cas de l'opinion et de ses associations et de ses anciens, l'existence même du camp des Milles, qui avait été ignoré, occulté, oublié pendant 40 ans en définitive. Hein. Donc c'est là qu'il y a eu cette sorte d'électrochoc, un tel camp a existé aux portes d'Aix-en-Provence, même quand on était dans la région, on ne le savait pas. Bon, on ne savait pas, en tout cas, une bonne partie de ceux qui auraient dû savoir ne savaient pas.
Ils n'avaient plus en tout cas.
Ne savait plus, ne voulait plus savoir, etc. Mais je pense même à la communauté juive ou à ceux qui sont attachés à la mémoire, on ne savait pas. Bon. Et là, effectivement, a commencé un travail un peu long, assez parallèle d'ailleurs à l'histoire de la mémoire de la Shoah en France. C'est-à-dire que c'est dans les années 80, d'une façon générale, que cette mémoire s'est un peu dégelée dans l'opinion publique, dans l'esprit national et dans l'effort qui a été fait par les autorités. Et nous avons quelque part participé de ce mouvement avec une difficulté particulière, c'est qu'il s'agit d'un camp français, à la différence du Struthof qui était un camp allemand, à la différence aussi de Drancy qui était un camp sous autorité allemande. C'est un camp français qui a fonctionné complètement, y compris pour les déportations de juifs, avant même l'occupation allemande de la zone sud et qui n'a plus fonctionné à partir du moment où les Allemands sont arrivés. Donc on avait là, en termes de mémoire nationale, une difficulté encore plus grande que pour le Veldiv, qui était certes une collaboration franche de la police française, mais sous occupation allemande. Là, c'était au Milles, tout s'est passé sans occupation allemande. C'est probablement une des difficultés de plus qui a fait la longueur du travail nécessaire pour que les choses émergent. Alors bon, ensuite toute une série d'éléments se sont mis en route, de concours sont intervenus, d'obstacles aussi effectivement, à la fois symboliques, je l'évoquais, mais aussi pratiques, financiers, etc. La Fondation pour la mémoire de la Shoah, à partir du moment de sa création, a fortement aidé notre initiative qui petit à petit s'est structurée autour d'associations plus spécifiques qui ont évidemment sauvegardé la salle des peintures murales, installé un wagon du souvenir, j'allais dire petit à petit cerné le lieu, le camp lui-même pour un jour pouvoir s'attaquer si je puis dire au centre même du camp. C'était une ancienne tuilerie qui a résisté au temps, qui fait que, vous l'évoquiez, il s'agit là du seul grand camp français d'internement et de déportation encore intact et donc qui va être accessible au public dans quelques temps. Cet été même, au mois d'août, nous avons petit à petit réussi à faire que ce lieu puisse devenir un lieu non seulement de mémoire, d'histoire, mais aussi d'éducation et de culture pour la partie mémorielle et historique, avec l'appui très fort du mémorial de la Shoah.
Alors peut-être il faut raconter l'histoire de ce camp. Donc au départ, un camp pour les ressortissants du Reich, les sujets ennemis instaurés par la Troisième République, donc avant même Vichy.
Tout à fait. D'ailleurs, dans la perspective pédagogique globale qui est la nôtre, ce n'est pas inintéressant de remarquer que c'est sous la République que s'est enclenché l'engrenage qui a fini par conduire 2 ans plus tard à la déportation des Juifs de la zone sud. Oui, 39-40, première période, c'est la République qui interne les ressortissants d'une puissance ennemie à l'époque, c'est-à-dire l'Allemagne, donc ressortissants du Reich, allemands, autrichiens, une partie de la Tchécoslovaquie qui a été occupée, donc des Tchèques, et qui, en fait, la République interne tragiquement des amis de la République, c'est-à-dire des Allemands et des Autrichiens, certes, mais anti-nazis, pour la plupart d'entre eux, ayant fui l'Allemagne nazie pour se réfugier en France, donc se sentant quelque part trahis, et beaucoup d'entre eux ensuite volontaires pour servir dans l'armée française, mais malgré cela, ils étaient internés, avec une ironie tragique du sort, parmi eux, de très nombreux intellectuels et artistes. On peut dire qu'en Europe, 2 grands camps ont rassemblé des intellectuels et artistes juifs en particulier, mais plus généralement d'Europe centrale, allemand et autrichien, le camp de Térésine en Tchécoslovaquie et le camp d'Émile, où il y avait de grands artistes comme Max Ernst, Franz Blamer, Leon Feuchtwanger, des dizaines de députés démocrates ou socialistes allemands, des journalistes, Luigi Longo, des gens des Républicains espagnols, etc. Bref, de tout ce groupe ont émergé des figures en particulier artistiques et intellectuelles très fortes, des prix Nobel aussi, qui font une spécificité forte et une dimension qui donne une dimension culturelle à ce lieu. De très nombreuses traces existent. J'évoquais la salle des peintures murales, une grande salle avec des dessins ironiques, au sens où l'ironie est la politesse du désespoir, des grandes fresques montrant que tous les peuples pouvaient manger ensemble.
Et le banquet des nations.
Le fameux banquet des nations, exactement. Bon, donc des messages qui étaient acceptables de la part des gardiens, mais qui étaient à double sens, comme on sait le faire quand on est artiste intelligent et qu'on veut faire passer des messages. Donc tout ça est effectivement rassemblé. C'était la période la plus vivante, j'allais dire, à l'intérieur du camp, même si les conditions devenaient de plus en plus dures. Donc 39-40, la République, c'est vrai, mais 40-42, un peu le même schéma, sauf que c'est Vichy qui, lui, ne se trompe pas et qui garde en détention une bonne partie des mêmes, mais parce que, précisément, ils étaient antifascistes, donc indésirables pour Vichy, et qui adjoint encore d'autres indésirables, en quelque sorte. Une partie des anciens internés sont, rendus à l'Allemagne, parce qu'ils n'étaient pas particulièrement marqués, je dirais. Et là, on a effectivement un processus lent de dégradation des conditions, parfois assez dures. Et puis, on en arrive à la troisième étape, qui est évidemment la plus cruelle, la plus tragique. C'est celle de la déportation en août-septembre 1942 de plus de 2000 hommes, femmes et enfants juifs, une centaine d'enfants à partir de l'âge de 1 an, proposée par Laval et Bousquet aux Allemands qui ne les demandaient pas. Qui ont fini, non pas que les Allemands, bien entendu, aient été d'une particulière mansuétude, mais ils avaient simplement compris qu'il ne fallait pas aller trop loin, quelque part, pour que la population française ne se retourne pas trop contre Pétain, à un moment où elle était plutôt favorable à Pétain. Et c'est ce qui s'est passé. Quand les Allemands ont fini par accepter qu'on livre les enfants juifs, que les autorités pétainistes livrent les enfants juifs, c'est là qu'on a les premiers rapports des préfets qui disent clairement que la population française ne supporte pas cela, se pose des questions et commence à s'interroger sur le régime de Vichy. Bon, voilà en très résumé l'histoire. Tous ces déportés ont été déportés vers Auschwitz, via Drancy ou via Rivesaltes. Très peu en sont revenus. Une centaine d'enfants, je vous le disais, ont été aussi déportés. C'est cette histoire tragique qui conduit aussi à un projet pédagogique fondé sur la notion d'engrenage des persécutions, et plus simplement encore, la notion d'engrenage tout court. C'est-à-dire que nous sommes dans ce genre de situation extrême, dans des dynamiques de situation que personne ne maîtrise, qu'au début, souvent, les acteurs, au fond, auxquels les acteurs participent sans voir qu'ils contribuent à un processus que personne ne maîtrise. Et nous souhaitons vraiment insister sur le fait que ces engrenages-là ont commencé dans des lieux ordinaires, comme cette tuilerie, au bout d'une grande rue ordinaire, d'un village tout à fait courant, avec des gens qui n'étaient pas pires que les autres et pas mieux que les autres, parmi les gardiens du camp des Milles en particulier, sauf qu'ils ont, par passivité, parfois par action, contribué à, étape après étape, à une dynamique, un enchaînement qui a conduit au pire. Et cette notion nous paraît tout à fait importante. On ne peut pas, dans ce domaine, ignorer que lorsque l'on prononce certains mots, lorsque l'on prend certaines mesures, lorsque certaines discriminations sont enclenchées, soit socialement, soit surtout institutionnellement, eh bien, on ne sait pas où ça va. Et au mille, on montre où ça peut aller. Et on le montre dans un lieu qui n'est pas Auschwitz, loin de là, mais qui est un lieu ordinaire à partir duquel, et bien d'autres en Europe, bien d'autres lieux, à partir duquel l'extraordinaire d'Auschwitz a été possible. C'est au niveau des mille que la résistance aurait pu être efficace. À Auschwitz, c'est évidemment très tard et très difficile. Et c'est donc dans ces lieux des commencements que l'on peut réagir et que nous voulons inciter, si d'autres situations du même type pouvaient se reposer à l'égard des Juifs ou à l'égard d'autres, nous attirons l'attention sur ces situations potentiellement explosives, ces situations de racisme, d'antisémitisme, qui peuvent conduire au pire.
Oui, et peut-être effectivement le fait de décrire un peu ce que peut-être le parcours du visiteur au camp des Milles permet de comprendre cette démarche. C'est-à-dire qu'on commence par une visite du camp, on en apprend un peu plus sur l'histoire du camp en tant que tel, puis sur l'histoire de la déportation des enfants. Je crois qu'il y a une séquence qui est consacrée dans ce mémorial à la déportation des enfants. Et puis ensuite, effectivement, toutes ces étapes qui font qu'une démocratie bascule dans l'autoritarisme et qu'un comportement individuel fait qu'on choisit de fermer les yeux, de résister ou de collaborer.
C'est un choix. Oui, y compris de fermer les yeux. Ce n'est pas un non-choix, c'est un choix aussi. Oui, alors, vous avez raison. Si on peut être concret sur ce que nous allons présenter, nous avons là affaire à une bâtisse, à des bâtiments qui font 15 000 m2, en bon état, je disais, fragile mais maintenant susceptible d'être visité, et intact en tout cas, c'est l'essentiel, sur 7 hectares. Le parcours de visite commence par un volet dit historique, où comme vous le disiez, on présentera à la fois le contexte européen de l'histoire spécifique des Milles, et ensuite, bien sûr, les grandes étapes de cette histoire, avec donc les trois grandes étapes que j'évoquais tout à l'heure, avec un parallèle permanent auquel nous avons tenu avec le mémorial de la Shoah, commissaire de cette exposition, un parallèle entre les éléments de situation et les destins personnels, individuels, qui seront illustrés très, très concrètement avec un maximum d'informations, d'iconographie, mais aussi même d'audiovisuel. Bon. C'est ce volet historique qui est la base du reste. À partir de là, on peut comprendre la visite du camp. Sinon, on voit une usine désaffectée, tout simplement. Une fois qu'on a compris ce qui s'y est passé, ce que veut dire des dortoirs, ce que veulent dire des dortoirs sur les sols empoussiérés et encombrés de cette usine, pour des dortoirs pour 3000 ou 3500 personnes à la fois, eh bien, on peut mieux comprendre ce qu'on va voir dans le deuxième volet, qui est donc le volet mémoriel, où seront visitables l'ensemble des espaces de l'internement tels qu'ils étaient à l'époque, avec une muséographie là au contraire extrêmement légère, où il s'agit simplement de faire comprendre et très, très légèrement ce que l'on voit et à quoi correspondent les grands espaces que l'on traverse. Et puis effectivement, dans un troisième temps, nous avons souhaité, c'est vrai que c'est pour la première fois sur un lieu de mémoire dans le monde, nous avons souhaité faire prendre du recul, donc ce volet réflexif, à partir de cette histoire, sur les lieux mêmes où elle a eu lieu, réfléchir sur les processus qui peuvent conduire au pire et les mécanismes qui permettent de réagir et de résister. Nous ne souhaitons en aucune manière que ceux qui sortent de ce lieu, en particulier les jeunes, puisqu'ils sont l'objectif majeur de notre mémorial depuis le début, y compris dans sa conception avec l'éducation nationale, etc. Je passe sur beaucoup de dispositifs qui sont mis en place très spécifiques. Nous ne voulons pas que les jeunes en particulier sortent de ce lieu écrasés par la méchanceté humaine. Certes, ils en seront conscients en sortant de ce lieu, mais nous voulons surtout qu'ils s'aperçoivent que face aux mauvaises situations, aux tendances les plus négatives, des hommes et des femmes ont pu dire non, que des hommes et des femmes ont toujours le choix, que chacun peut réagir à sa manière, sans nécessairement prendre les armes. Parfois il le faut, parfois on le peut, parfois on ne le peut pas, mais il suffit parfois de ne pas regarder le gamin qui s'échappe pour lui sauver la vie. Ça n'est pas un acte apparemment héroïque, et pourtant on sauve une vie, c'est aussi un acte juste. D'ailleurs, nous présenterons un mur des actes justes, où il y aura des actes faits par des justes, mais il y aura aussi toutes sortes d'actes pris d'ailleurs dans les génocides, bien sûr la Shoah, mais aussi le génocide arménien, le génocide contre les Tutsis, les crimes contre les Tziganes, qui montrent que dans toutes ces situations, il y a des gens qui ont su aider, qui ont su résister, et ça nous paraît très important de terminer le parcours par cette note. Vous avez évoqué tout à l'heure, et c'est important, l'accent qui est mis sur les enfants déportés. Cet accent est mis en particulier sur place grâce au fait que Serge Klarsfeld nous a confié de façon permanente sa grande exposition nationale sur les enfants juifs déportés de France, qui sera au cœur de notre dispositif et qui permettra aux jeunes en particulier de voir le sort de bien des enfants comme eux, ayant le même âge et qui, hélas, ont été victimes de cette tragédie, de cette barbarie. Je précise, pardonnez-moi, que le volet réflexif dans son originalité a fait l'objet d'un travail scientifique d'une dizaine d'années par de nombreux chercheurs qui ont à la fois rassemblé des acquis scientifiques existants sur la passivité, le conformisme, l'effet de groupe, la soumission aveugle à l'autorité, les stéréotypes bien sûr, l'antisémitisme, etc. Mais il y a aussi des apports originaux, au-delà même de la synthèse d'acquis existants, des recherches spécifiques ont été faites, notamment pour examiner de près et clarifier les processus dont je parlais, les étapes des processus qui peuvent conduire au pire.
Alors oui, vous dites effectivement, vous avez évoqué ce lien avec le génocide des Tutsis, le génocide arménien, et vous parlez aussi de convergence des mémoires plutôt que de concurrence des mémoires. Alors c'est important, je pense, de souligner ça.
Oui, nous essayons effectivement. Bon, nous sommes, je crois, comme beaucoup de personnes, tristes, pour ne pas dire autre chose, parfois choquées de voir se mettre en place des concurrences mémorielles, des irritations mémorielles plus ou moins croisées, on a plus souffert, non, mais c'était plus ancien. Bon. Bien sûr que chaque crime a sa spécificité. Bon, déjà, il faut les regarder avec précision. Un crime de guerre, ça n'est pas un crime contre l'humanité, et tous les crimes contre l'humanité ne sont pas des génocides. Bon, une fois qu'on a posé un certain nombre de définitions qui aident à voir clair et qui aident à éviter qu'on mette tout, je dirais, au même niveau, on se retrouve sur quelques génocides que j'évoquais tout à l'heure, qui ont des caractéristiques communes, et ce sont ces caractéristiques communes qui peuvent, à nos yeux, constituer le socle d'une convergence des mémoires et non pas d'une concurrence des mémoires. Autrement dit, ce qui est important, c'est à partir de, en l'occurrence chez nous, au MIL, c'est l'engrenage de la Shoah qui s'est mis en place. Donc c'est évidemment à partir des mécanismes que la Shoah permet de mettre en lumière, et ô combien, à partir de ces mécanismes-là, nous pouvons regarder les autres génocides et constater que beaucoup de ces mécanismes ont été aussi à l'œuvre dans ces autres génocides. Et que ces éléments communs constituent une sorte d'expérience commune de l'humanité, d'expérience tragique, de savoir commun que nous pouvons utiliser pour éclairer le présent et l'avenir. Et c'est là que c'est sur ces éléments communs que peut se construire cette convergence des mémoires dans une perspective, encore une fois, d'avenir. Nous avons eu longtemps comme logo « Mémoire pour demain », nous disons parfois « Comprendre pour demain », mais il est vrai qu'en toute hypothèse, ce sont vraiment ces leçons travaillées et précises de l'histoire qui permettront de passer du « plus jamais ça » au « comment plus jamais ça ?» Parce que « plus jamais ça », c'est important et ça permet de descendre dans la rue à tel ou tel moment pour protester contre différentes choses. Mais comment on fait pour que plus jamais ça ? Bon, et c'est là qu'il faut commencer, pour arriver à ce « comment », il faut commencer par comprendre ce qui s'est passé et ensuite, lucidement, regarder le présent et un peu plus loin pour savoir face à quel type de situation on est à l'aide des clés de compréhension que nous aurons pu proposer, des clés de compréhension qui sont pluridisciplinaires et pas seulement historiques.
Alors, vous dites aussi que c'est un lieu témoin qui prend le relais des témoins. Donc, est-ce que c'est pensé aussi comme cela pour l'après, pour ce moment où ceux qui pouvaient témoigner jusque-là ne seront plus là car ils seront morts ?
Vous avez raison. En fait, c'est pensé à travers deux axes. Un que vous venez d'évoquer, effectivement. Nous ne pouvons pas ignorer que les témoins disparaissent irrémédiablement. Sur la quinzaine d'anciens dont je parlais tout à l'heure à l'origine du projet, il n'y en a plus que trois qui sont toujours là, dont je dois le dire à mon père. Il demeure que la roue tourne et qu'il nous paraissait... Ils seront irremplaçables, ces témoins. Ils seront irremplaçables. Bon. Mais un lieu qui peut durer plus que des hommes, je dirais, nous paraît être une bonne manière, évidemment non pas de les remplacer, mais de relayer leur message en ancrant dans la pierre un certain nombre d'éléments, de mémoire, leur visage, leur message, leur histoire, tout simplement. Donc oui, dans ce sens-là, c'est un lieu témoin qui prend le relais des témoins. Le deuxième axe que j'évoquais, c'est que ces témoins eux-mêmes, ce qui les a beaucoup motivés dans leur action, c'était de voir, nous parlions de 83 et depuis ça n'a fait que croître et embellir, de voir que les crispations identitaires, les fanatismes, les extrémismes qui ont conduit au pire, ma foi, étaient loin d'être du passé et sont loin d'être du passé, dans notre région en particulier, mais pas seulement. Les fondamentaux des intolérances sont bien là, les crises, les crispations, etc. Bref, on voit bien s'amorcer les fameux mécanismes que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, c'est aussi une fidélité à leurs paroles que face à ces résurgences, retours, risques potentiellement explosifs, que de tenter d'aller le plus loin possible pour dire « voilà où ça mène ».
Merci encore. Je rappelle Alain Chouraki que vous êtes donc le président de la Fondation du Camp des Milles Mémoire Éducation, un mémorial qui va ouvrir début août, c'est ça ?
Exactement.
Merci encore. C'était Mémoire Vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Deux adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet, www.radio-rcj.info, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.